plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, ta gala la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Comme un lundi. Comme un lundi, ça recommence. Ta vie d'adulte, et puis d'en France. Et même si pieux, s'il pleut des coups de pied au cul, même si t'aurais su, t'aurais pas venu, va falloir y aller. Vaille que vaille, une vie en miettes et en détail. Et puis croiser les regards qui te fuient. Les gens cadenassés, emmitouflés dans leurs pensées, avec la clé bien perdue au fond. T'as pas envie d'aller chercher là-bas. Et puis ça a été rien, c'était un sourire peut-être adressé à quelqu'un d'autre. Un souvenir qui remonte de ta vie en maillot de bain, ta vie d'été, ta vie d'avant, ta vie qui reviendra. T'inquiète pas. Et puis t'as eu envie à nouveau. Peut-être juste ton gamin qui a perdu ses dents de devant. Et ça, la dent de devant, ça grandit le sourire. Allez, vas-y, on y va ensemble. Comme un lundi. Comme un lundi.
Ouais, j'aime.
Radio Nova.
Bonjour Thierry Paret.
Salut Edouard, bonjour à tous.
Cette énergie est comme un... C'est une caresse et en même temps il y a un coup de cravache dans cette caresse. Merci.
On ouvre ce flash info avec la cérémonie des Golden Globes, bien sûr, de Beverly Hills.
Vous savez, Katman Kelly va en parler tout à l'heure,
chroniqueur mondain
de l'émission.
Mes souvenirs sont bons, hein, 8h10 dans
ces
eaux-là.
Vous êtes en smoking, Katman Kelly.
Oui, je suis venu en smoking directement de la cérémonie.
Pour l'occasion. Alors, c'est en train de se terminer. D'ailleurs, c'est peut-être déjà terminé à l'heure qu'il est. C'est le soir, en ce moment, évidemment, en Californie. La comédie musicale La La Land, grande favorite de l'édition 2017 de ces Golden Globes, a réalisé un sans faute. C'est-à-dire que, fort de 7 nominations, le film qui relate la romance entre une aspirante actrice et un musicien de jazz est reparti avec 7 sacres, dont celui du meilleur film de comédie, meilleure comédie, meilleur réalisateur, meilleur scénario. On ne va pas tous citer ici. D'abord, Atman va en reparler tout à l'heure et puis on peut aller voir aussi sur le site des Golden Globes. Mais quand même, on ne va pas citer tous les prix, mais quand même, sachez que Isabelle Huppert a reçu le prix de la meilleure actrice dramatique pour son rôle dans le film français Elle, film de Paul Verhoeven, sacré par ailleurs meilleur film étranger.
On va l'appeler.
Verhoeven ou Isabelle Huppert?
Je sais pas, j'ai aucun des téléphones.
Les deux. Bachar al-Assad a accordé une interview à plusieurs médias français dans laquelle il estime que la reconquête d'Alep est un moment critique et que son régime est sur le chemin de la victoire. Selon le président syrien, toutes les guerres provoquent des destructions, toutes les guerres provoquent des morts. Vous ne pouvez pas dire qu'une guerre est bonne, même si elle a lieu pour de bonnes raisons. Ce n'est pas la solution. Fin de citation. Justifiant le bombardement des populations civiles par la nécessité, je cite, de libérer la ville des terroristes. Selon Bachar al-Assad, c'est parfois le prix à payer. Puis le président syrien s'est aussi entretenu avec 3 députés français hier. Élu LR Thierry Mariani et Nicolas Duic, et puis l'ex-modem Jean Lassalle, qui nous avait rendu visite d'ailleurs il y a quelques temps ici.
Ça c'est vrai, j'étais là, c'était super.
Akbar Hashemi Rafsanjani est mort, l'ancien président iranien de 1980 à 88, avait 82 ans, il aurait succombé à un malaise cardiaque. 4 morts, c'est le bilan provisoire d'une attaque au camion hier à Jérusalem, le chauffeur du véhicule a été tué, il a foncé sur un groupe de militaires le long d'une promenade publique populaire surplombant les murs de la vieille ville. Outre les 4 militaires tués, une quinzaine d'autres ont aussi été blessés. J-11 avant les cérémonies d'investiture de Donald Trump à Washington, aucun responsable politique français n'assistera dans la tribune officielle à l'investiture du 45e président américain. Seul l'ambassadeur français de Washington sera présent. Quant à Hillary Clinton, si l'on en croit une de ses proches, eh bien la candidate démocrate ne se représentera plus jamais à aucune élection. Le José Bové, défaucheur de chaises en procès aujourd'hui à Dax dans les Landes, Jeune Palais, c'est son nom, s'est fait un malin plaisir d'aller voler des chaises dans les agences de banques soupçonnées d'être impliquées dans l'évasion fiscale.
Faut pas le faire, hein.
Non, le fait d'armes, entre guillemets, pour lequel il est...
Il ne faut pas le faire, vous me disiez.
Ah non, il faut pas le faire.
Voilà, j'attendais votre c'est pas bien.
On a prévenu.
On avait dit ça.
On
l'avait dit à la réunion.
On l'avait dit, il faut pas le faire.
Alors,
après, on avait prévenu.
On avait dit ça.
C'est vous qui voyez.
Le personnel du métro de Londres a entamé une grève de 24 heures pour hier soir, selon les syndicats. C'est-à-dire que la direction pourrait annoncer 900 suppressions de postes. Voilà. Et ainsi que la suppression des bureaux de vente de billets dans les stations. C'est un peu comme à Paris, hein, pour les remplacer par des distributeurs automatiques. Abidjan, Bamako, Bruxelles, Dakar, Kinshasa, mais aussi Londres, Ouagadougou ou encore Paris, des rassemblements, des manifs et des conférences se sont tenus ce week-end. Un appel mondial a été lancé pour demander la fin du franc CFA, monnaie créée en 45, arrimée à l'euro et jugée colonialiste. Selon les organisateurs de l'événement, le franc CFA est une survivance des colonies françaises d'Afrique, qui constitue une servitude monétaire à laquelle il est temps de mettre un terme. Un sondage de plus à propos de la primaire du PS. Selon l'Institut Sofres, Manuel Valls arriverait en tête au premier tour, mais serait battu au second face à Arnaud Montebourg et arriverait à égalité en cas de duel contre Benoît Hamon. Sondage évidemment à prendre comme tous les sondages avec prudence, tant il est délicat évidemment d'anticiper ce que sera la participation au scrutin organisé les dimanches 22 et 29 janvier.
Même 150. Le Parisien ne fait plus de sondages. La presse arrêtée,
oui,
vous continuez.
Je sais,
vous allez nous emmerder longtemps avec vos sondages.
j'en donnerai d'autres. 150 personnalités marseillaises, dont les députés PS Patrick Menucci et Marie-Arlette Carlotti, ont signé une tribune dans le journal du dimanche pour réclamer l'instauration dans la ville d'une légalisation contrôlée du cannabis pour, je cite, mettre fin à la prohibition du cannabis. L'an dernier, les règlements de compte liés au narco-banditisme dans les Bouches-du-Rhône ont fait 27 morts par balle. Et puis on termine avec un mot de la Coupe de France de football. Hier soir, Lyon a battu Montpellier 5-0. Lyon rencontrera Marseille en 16e de finale. Marseille qui a battu Toulouse 2-1.
Alors, est-ce que vous connaissez la nouvelle météo flamenco de Tito ?
Non, mais ça, je veux bien la connaître.
Météo.
À Clermont-Ferrand, il fait moins 1. À Bordeaux, il fait 6. À Nantes, il y a du soleil. Et à Paris, de la pluie. Et devinez où c'est qu'il fait le plus beau. C'est pas Strasbourg ni Bordeaux, non. C'est Nîmes, Marseille, Ajaccio.
Voilà, j'ai tout. Voilà, il y a de l'info. Bravo, merci beaucoup.
Très bien.
À tout de suite pour l'émission de radio plus près de toi.
Nova.
7h-9h, plus près de toi.
Nova,
plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird.
Oh mon Dieu, il me caresse l'oreille, ce con.
Bonjour.
Oui, la boulangerie du Palais à Lyon. Bonjour madame. Qui a eu la fève hier?
Beaucoup de gens.
Vous avez pas des noms, des listes?
Ah non, désolé.
Parce que en fait, à chaque galette, il y a une fève.
Deux
fèves par galette?
Oui.
Donc, mais si, alors c'est pas, on tire donc si c'est pas la même personne, donc il y a un roi et une reine.
Oui.
Et donc eux ne peuvent pas rechoisir, ils sont obligés de choisir la personne qui a eu l'autre fève. Donc on impose la reine au roi. Comment c'est organisé en fait?
Chacun sa tradition, vous savez.
Mais à la boulangerie du Palais, là, vous faites comment? Donc vous mettez les gens en fait en couple avant qu'eux ne choisissent?
Oui, voilà, c'est ça.
Mais c'est une tradition lyonnaise ou c'est personnel à vous?
Non, c'est personnel.
Très bien. Eh bien, j'ai envie, rien que votre voix, tout, j'ai envie de vous voir. Je vous embrasse. On est à la Radio Française. C'était un des canulars téléphoniques les plus drôles que j'ai entendus de ma vie.
D'accord.
Au revoir, mademoiselle. Merci.
Au revoir, bonne journée.
Débrief immédiatement sur ce, je crois... Débrief, un des plus drôles canulars téléphoniques a lieu ce matin. L'animateur Boer a appelé une boulangerie à Lyon, la boulangerie du Palais, à l'ancienne, mais ne disant pas qu'on était en direct à la radio. Et c'est là que le rire
était là.
Vous avez ri, vous avez vu le potentiel.
Depuis Jacques Legras, j'avais pas
moi,
vu des trucs.
Depuis la fête, depuis les grandes impostures.
C'était fou, c'était fou. Moi, je suis sorti du studio tellement je me marrais.
Quand vous avez dit, est-ce qu'il y a deux fèves,
voilà.
Là, je suis tombé.
Vous savez que j'étais en impro. C'était de l'impro. On était dans la folie, on était dans l'intuition. Génie, je ne sais pas, talent peut-être, beaucoup de travail bien sûr, mais ça valait le coup parce que c'est le cadeau de 8h de Nova.
C'était
voyez
magnifique. C'était un cadeau qui était donné.
Vous êtes chez vous, il est 7h13, la vie a l'air un peu grise, le jour n'est pas levé, tout à coup, le rire, le
une
rire.
Bonne tranche de rigolade.
Mais vous allez arrêter, bande de lèche-cul. Mais c'est fini.
On peut le dire vraiment ce que c'était?
C'était un chien.
C'était pourri.
Alors on reprend tout de suite, on fait comme si un disque était passé, Armel.
Oui, bonjour.
Bonjour Armel, vous êtes revenu de vacances?
J'étais en stage d'oxygénation à la montagne.
Oui, ça veut dire des vacances payées par la radio. Alors Atmen, vous étiez devant votre poste de télévision hier soir pour regarder les Golden Globes.
Jusqu'à 5h du matin quand voilà, même, j'ai failli perdre mon ménage. Hein.
Alors oui, votre femme elle est partie il y a longtemps et elle ne reviendra pas. Dites-moi Atmen, les Golden Globes, ça n'est pas exactement les Oscars?
C'est un peu les primaires des Oscars.
Ah,
voilà.
C'est joli, très frais.
C'était l'antichambre des Oscars, oui. Les coulisses. Alors c'est la presse étrangère qui vote pour les films et les séries.
Je me remets à peine parce que je repense
du
au canular téléphonique.
Oui.
Vente fraîche.
Elle aussi, elle s'en est parmi la dame à la boulangerie.
Je lui ai fait sa journée. Oui.
Et donc, c'est une grosse cérémonie où la presse étrangère vote pour les films et les séries américaines. Il y a beaucoup, beaucoup de moyens. Et c'était Jimmy Fallon qui le présentait. Moi, je préférais, comme vous, je croyais Ricky Gervais, beaucoup plus drôle, beaucoup plus incisif. Jimmy Fallon, il a un peu passé les plats. Il a fait quelques vannes Genre Game of Thrones, est-ce que vous avez vu? Les gens ont dit non, vous l'aurez dans 12 jours par rapport à Trump. Donc, oui. Il faisait des vannes un peu comme ça sur Trump.
Ricky Gervais faisait des blagues, il disait, voilà, je sais qu'après cette soirée des Golden Globes, vous allez aller vous droguer, aller avec des putes, des travelots, enfin, une journée normale chez Charlie Sheen.
Voilà, exactement, c'était des très grandes vannes, là, pas du tout. Bon, il y a eu... ce qui est bien là-bas, ils devraient s'en inspirer au César. Ça boit, ça picole, ça rigole. Ils sont vraiment à la
table. Ils sont à table.
Ils sont à table, ils boivent beaucoup. Et quand les gens présentent, ils doivent hurler « Tenez-vous, j'ai un truc à dire !» Et c'était assez drôle, ça. Beaucoup de...
On n'a pas l'impression que c'est fait pour la télé. L'impression que les gens sont en train de dîner normalement et que la caméra vient voir un peu ce qui se passe.
Quand ils vont chercher le prix, ils se poussent avec les sièges, comme ça et tout. Et à un moment donné, j'ai vu hier Meryl Streep qui gueulait en disant « Mais poussez-vous,
vous
passe !»
Vous aimez ça, le trash, quand ça vit, quand ça transpire, quand vous avez...
Ouais, c'était très très drôle pour ça. Bon, c'est La Land qui a tout gagné. C'est une comédie musicale à la Jacques Demy à l'américaine. Isabelle Huppert qui avait un anglais un peu approximatif.
Tant mieux. C'est joli.
Oui, c'était assez drôle.
Hello, how are you?
Ouais, ouais. J'ai senti que c'était la dernière, c'était les derniers Golden Globes avant Trump. Ils ont beaucoup donné de choses aux étrangers, en bénissant les autres pays, je trouve, en donnant.
Vous pensez que ça serait après les acteurs de l'Arkansas ou
du
Dallas qui vont gagner?
Voilà, c'était vraiment un truc très. C'est là, ils ont fermé la porte après. Enfin, ils vont fermer la porte, je crois. Vraiment.
Je vous remercie beaucoup.
Juste,
pour...
non, dernier truc. Je trouvais que Steve Carell, que j'adore, mais qui est un comique génial, et Kristen Wiig, ils ont fait un numéro génial sur les dessins animés. Ils ont parlé de leur premier dessin animé. Et Steve Carell a dit, moi, ce que j'ai adoré, c'est quand je suis allé voir mon premier dessin animé, c'était Fantasia. Et quand je suis sorti, mon père a dit à ma mère, on divorce. Et il s'est mis à chialer d'un coup, comme ça, sur scène, en disant...
En présente, parce que Fantasia a amené le divorce de ses parents.
Ses parents, mais c'était une blague, mais exactement, mais il a fait croire que c'était... Et chaque fois que je pense, il appelle ça la tragédie du Fantasia Day. Il s'est mis à chialer en direct. Les gens l'ont applaudi comme une standing. C'était vraiment un numéro bien réglé. Et Kristen Wiig a dit à côté, moi c'était juste Bambi, ça a fait fuir toute la famille. C'était un truc très bien réglé. Ils ont vraiment le sens de l'entertainment.
Merci à toi-même, Christophe, vous avez apprécié cette rubrique.
Oui, moi je vais être le Steve Carell français.
Très bien. En attendant, repensez à mon canular téléphonique tout à l'heure, qui est un des très grands moments d'émission, qui s'échange beaucoup sur
c'était
les réseaux sociaux.
C'était la radio invisible tout à l'heure.
On va donner un numéro de téléphone, Eugénie, que les gens puissent appeler pour voir à quel niveau ça les intéresse. Le
01 43 07 58 85.
Vous donnez une note
58 85 pour vous dire comme vous avez été bouleversé par ce gars téléphonique. Je rappelle donc j'ai appelé la boulangerie du palais. On est dans une forme à tout de suite. Bonjour Dominique Régnier.
Bonjour Edouard.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Je vous remercie beaucoup, mais c'était pas juste pour ça, même si ça me fait plaisir que je vous remercie de venir. On parle beaucoup à l'occasion des présidentielles qui se rapprochent d'argent, de financement des campagnes. Ça a commencé avec le Front National, puisqu'on disait que Marine Le Pen est empruntée à son père, après avoir essayé d'emprunter à des banques russes, tout ça avait l'air compliqué. Si aujourd'hui, moi, je voulais me présenter aux présidentielles, Dominique Régnier, sachant que j'ai peu de chance d'avoir un parti derrière moi, comment est-ce qu'on est financé? Quelles sont les chances qu'on a d'être remboursé sur sa campagne?
Alors le financement d'une campagne, c'est vraiment un grand sujet pour les pré-candidats. C'est un obstacle à surmonter. Évidemment, si vous appartenez à une grande machine politique comme les Républicains, le PS ou le FN, qui quand même a de l'argent parce qu'il en reçoit de l'État, ça va normalement, vous vous en sortez. Si c'est pas ça, c'est vraiment un sujet. Il vous faut trouver, alors par exemple en 2012, si on prend des candidats intermédiaires comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, ils ont chacun dépensé environ 9 millions d'euros pour leur campagne. Ils ne sont allés, on s'en souvient, qu'au premier tour. Ceux qui sont allés au second tour, comme François Hollande ou Nicolas Sarkozy, ont dépensé plus de 20 millions d'euros. 9 millions pour le premier tour, mais ça ce sont des candidats, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, on s'en souvient, qui avaient fait plus de 5% des suffrages, 18% pour Marine Le Pen, 11% pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, ils ont été remboursés par l'État. Si bien que...
À partir de combien, pardon?
5%. 5%. La tranche est 5%. Si vous faites moins de 5%, vous perdez l'argent que vous avez placé dans la campagne. Alors, si on prend le cas d'Eva Joly, elle avait dépensé 1 800 000 euros. Elle n'a pas fait 5%, donc c'était perdu. Même chose pour Nicolas Dupont-Aignan. Il a dépensé 1 100 000 euros. Il n'a pas fait 5%, donc c'était perdu aussi, etc. Donc là, vous avez un enjeu qui est comment je fais pour financer une campagne quand je suis un petit candidat? Vous pouvez faire appel aux dons. On a le droit de donner 600 euros pour une campagne et par candidat. Donc c'est assez limité en réalité. Il faut trouver des donateurs. Il est strictement interdit de recevoir des dons d'une entreprise ou d'une association, d'une église, que sais-je. Donc c'est très limité en réalité. Et on peut bien sûr emprunter, il faut trouver une banque qui vous prête, ça ne se trouve plus en réalité, les banques ne veulent plus. Les banques ne veulent pas parce que non seulement il y a un risque Si vous allez voir un banquier, il va vous demander un sondage. Il va vous dire, mais est-ce que les sondages vous donnent plus ou moins de 5%? S'il y a un risque, évidemment, ce n'est pas incitatif. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que les banques n'ont pas envie de mêler leur activité à la politique. Elles considèrent que c'est un risque d'image, un risque de complications. Donc, elles ont tendance à dire non à tous les partis.
Qu'est-ce qui coûte cher, Dominique Reynier? Les déplacements, les meetings, les affiches?
Très clairement, un meeting, c'est environ... Enfin, un petit meeting, c'est facilement 200, 300 000 euros.
C'est une location de salle, genre quoi
1500 personnes, ouais. Et puis il y a du matériel. Souvent, alors ça dépend des candidats, bien sûr, hein, mais un candidat moyen, il faut quand même qu'il loue quelques bus pour faire venir quelques personnes. Enfin, c'est très vite. On peut faire des meetings à 20, 30 000 euros, bien sûr. Ça dépend un peu de ce que vous faites. Mais pour un candidat solide ou qui veut essayer de réussir un premier tour, ça coûte très vite beaucoup d'argent. Au total, une campagne présidentielle, la démocratie quand même, hein, ça coûte 240 millions d'euros en France. Mais on peut rappeler que c'est de l'argent public, hein, presque exclusivement. C'est un choix qui a été fait par la France, par la République française. Aux États-Unis, Trump et Hillary Clinton se sont affrontés récemment. Ils ont battu tous les records. Ça a coûté 3 milliards de dollars.
Privé.
Et alors, aux États-Unis, on peut choisir financement public ou financement privé. Si vous choisissez financement privé... l'État ne vous donne rien du tout, vous vous débrouillez. Et là, vous faites appel à des donateurs, des entreprises. Enfin, c'est très différent comme philosophie et comme système. C'est parfois critiqué, mais c'est aussi très transparent.
Et puis en France, il y a des plafonds. Aux États-Unis, non, aux États-Unis, on peut dépenser
autant
qu'on veut.
Exactement. En France, il y a des plafonds, en effet, autour de 22 millions d'euros pour la présidentielle quand vous allez au second tour. D'ailleurs, en 2012, c'est cette histoire de plafond qui a été dépassée par Nicolas Sarkozy, qui a, par sa campagne, qui a produit l'invalidation de ses comptes, si bien qu'on en a beaucoup parlé de ça. En 2012, les Républicains, à l'époque l'UMP, ont été remboursés de rien du tout. Puisque pour être remboursé, il faut non seulement faire plus de 5%, mais avoir ses comptes qui sont validés par une commission, qui est la Commission nationale des comptes de campagne, et alors qui scrute vraiment avec un souci du détail qui pourrait apparaître, si on le montrait, qui pourrait apparaître comme tout à fait effrayant. On va chercher le prix d'un ticket de métro, on va chercher vraiment le prix d'un repas. Mais pourquoi vous avez déjeuné à ce moment-là? Est-ce que c'était pour
avec
la campagne?
Oui, qu'est-ce que c'est que ce poisson?
Voilà, exactement.
Dominique, une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Internet, avec d'autres façons de communiquer, on a une chance sans argent d'aller loin en politique et de gagner?
Moi, je ne crois pas. En l'état actuel des choses, les réseaux sociaux, le numérique, qui est en gros le média du pauvre, vous donne une visibilité, vous permet d'électriser un peu le débat et l'espace public. Mais il y a tout un monde entre la visibilité numérique et le fait de convaincre quelqu'un d'aller le jour du vote déposer un bulletin dans l'urne avec votre nom sur le bulletin.
Le média du pauvre.
L'argent des primaires là, pour la gauche et la droite, ça, c'est réinjecté dans la campagne ou pas?
En tout cas, c'est réinjecté dans les comptes de campagne.
Ah, n'ayez pas peur, Atmen. Non, tout sera réinjecté. Vous reverrez votre argent que vous avez donné à...
Deux euros,
Il l'a donné à... Merci de me
donner. J'ai donné 2 euros.
Merci.
7h-9h, plus près de toi. 7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, il y a des génériques qui passaient trop luxueux, cette émission, c'est trop produit. Merci Armel. Tout à l'heure, nous faisions un très très bon gag téléphonique en appelant une boulangerie à Lyon. Et là, les gens avaient beaucoup apprécié. Beaucoup d'appels peut-être pour nous féliciter ou commenter cet appel. Allô?
Allô?
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous avez écouté tout à l'heure donc l'appel téléphonique?
Oui, en fait, je voulais absolument appeler parce que je ne m'en suis pas remis.
Oui.
J'ai pas autant ri, en fait, je crois, en 2017.
Oui, oui.
Du coup, je voulais absolument, absolument partager ça avec vous.
Je vous remercie. Oui, le rire était là. Je crois vraiment le rire était là. Je vous le dis objectivement. C'est pas parce que c'est moi qui ai fait ce gag, donc d'appeler une boulangerie et de ne pas dire qu'on était à la radio pour dire qu'il y avait la fève dans la galette. Oui, je crois que le rire était présent. Puis quand il est là, il est là. Quand c'est pas drôle, c'est pas drôle. Quand c'est très drôle, on dit. Je crois que ça fait partie aussi de l'honneur du service privé.
Merci, mais alors, monsieur. Du coup, c'était une innovation, cette fève? Comment ça se
Non, je crois que c'est une boulangerie qui met 2 fèves par galette, je pense, pour qu'il y ait 2 gagnants, très simplement. Si vous voulez, je pense que le client est en roi. Et je crois que pour l'achat d'une galette, il y a 2 rois. Et ça, vraiment, c'est l'avenir.
Arrête, je sens que je vais repartir en
Christophe Ménet, qui est fan de ce gag. Vous-même, vous êtes dans la boulangerie ou dans l'humour?
J'aimerais en fait cumuler les deux. Ce sont deux de mes passions.
Mais je crois...
j'aimerais faire en sorte que...
Mais c'est l'avenir, monsieur. 2 métiers par personne. Et puis vive de l'humour. C'est vraiment formidable. Merci, monsieur, de votre témoignage. Vous êtes au travail? Vous êtes chez vous?
J'y vais, là.
Très bien. Et vous y allez, je crois, le sourire en tête.
Ah, mais plus que ça. Plus que ça, Edouard.
Merci. Quel est votre prénom?
Bastien.
Je ne vous oublierai jamais, Bastien. Thierry Paré, maintenant.
Radio Nova.
Je passe de très belles choses.
Qu'est-ce que c'est que cette arnaque?
Et une fève, tiens, pour Isabelle Huppert. Les Golden Globes récompensent l'actrice française qui a reçu le prix de la meilleure actrice dramatique pour son rôle dans le film Elle de Paul Verhoeven.
Elle avec
aussi...
la chanson de Pierre Bachelet, la chanson du film de Verhoeven. Elle, moitié loup, moitié tourterelle, c'est une femme infiniment. Elle, moitié loup, moitié tourterelle.
Vous n'avez pas vu le film, il y a
longtemps. C'était une chanson de... Un nom de Félix Gray?
Mais, oui,
ou de Pierre
Didier Barbelivien.
Barbelivien, l'ami de Sarkozy, c'est ce qu'on appelle le troubadour, je crois.
Elle, qui a aussi reçu le prix du meilleur film étranger. La cérémonie de Beverly Hills a surtout souri à la comédie musicale La La Land. Nommée 7 fois, le film a reçu 7 sacres, dont celui de la meilleure comédie, meilleur réalisateur et meilleur scénario. Si
on reste... sacres, vous êtes sûr de cette expression?
Bah oui, je pense que c'est bon.
Sacré 7 fois.
Sacré 7 fois.
Ah, j'ai pas fait la liaison. 7 sacres. Non, il n'y a pas de liaison.
J'ai l'impression que vous avez vécu dans Game of Thrones toute votre vie.
On reste un instant aux États-Unis. J-11 avant la cérémonie d'investiture de Donald Trump à Washington et aucun responsable français, politique français n'assistera dans la tribune officielle à l'investiture du 45e président américain. Seul l'ambassadeur français à Washington sera présent. Quant à Hillary Clinton, une de ses proches affirme que la candidate démocrate ne se représentera plus jamais à aucune élection. 4 morts, c'est le bilan provisoire d'une attaque au camion hier à Jérusalem. Le chauffeur du véhicule a été tué. Il a foncé sur un groupe de militaires le long d'une promenade publique populaire surplombant les murs de la vieille ville. Outre les 4 militaires tués, une 15aine d'autres ont aussi été blessés. Abgar Hashemi Rafsanjani est mort, l'ancien président iranien de 1980 à 88. Avec 82 ans, il aurait succombé à un malaise cardiaque. À Abidjan, à Bamako, Bruxelles, Dakar, Kinshasa, mais aussi Londres, Ouagadougou ou encore Paris, des rassemblements, des manifestations, des conférences se sont tenues ce week-end. Un appel mondial a été lancé pour demander la fin du franc CFA, monnaie créée en 45, arrimée à l'euro, jugée colonialiste. Selon les organisateurs de l'événement, le franc CFA est une survivance des colonies françaises d'Afrique qui constitue une servitude monétaire à laquelle il est temps de mettre un terme. Le José Bové des faucheurs de chaises en procès aujourd'hui à Dax dans les Landes, Jeune Palais, c'est son nom, s'est fait un malin plaisir d'aller voler des chaises dans les agences des banques soupçonnées d'être impliquées dans l'évasion fiscale. 150 personnalités marseillaises, dont les députés PS Patrick Menucci et Marie-Arlette Carlotti, ont signé une tribune dans le journal du dimanche pour réclamer l'instauration dans la ville d'une légalisation contrôlée du cannabis pour, je cite, mettre fin à la prohibition du cannabis. L'an dernier, les règlements de compte liés au narco-banditisme dans les Bouches-du-Rhône ont fait 27 morts par balle. Un tram-bus électrique sur les quais hauts de la rive droite, une piste cyclable bidirectionnelle rue de Rivoli, des portions fermées à la circulation automobile. Bref, après la fermeture controversée depuis juillet des quais rive droite, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a détaillé hier au journal du dimanche les aménagements des 2 axes majeurs qui traversent la capitale d'est en ouest, avec pour objectif de diviser par 2 en moyenne la place de la voiture individuelle polluante. Et puis Fukoku est une compagnie d'assurance japonaise dont le boss a peut-être trop vu Terminator. Il a décidé et annoncé vouloir se séparer d'un quart de ses effectifs, c'est-à-dire 34 personnes, pour les remplacer par un robot, un système d'intelligence artificielle capable, selon cette entreprise, de traiter 130 000 dossiers de remboursement médicaux par an.
C'est aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui lundi 9, je crois, lundi 9 janvier, c'est la Sainte Alice ou la Sainte Alix, c'est la fêtée en flamenco, partito.
Aujourd'hui, messieurs, dames, fêtons la Sainte Alice, sans oublier, bien sûr, fêter les Saintes Alix. On va chanter pour vous une chanson, bien sûr, pour vous fêter demain, une chanson.
Il faut pas finir cette chanson. Merci, merci cher Tito. Christophe Méné, ça vous a inspiré, les Alice, les Alix?
Oui, 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 surtout que je me suis rendu sur le site éphéméridesdujour.fr.
J'ai envie de faire ça, oui.
Et alors là...
Surtout que vous n'étiez pas obligé de le faire.
Bah non, j'étais pas du tout obligé.
C'est tout plaisir, tout cadeau.
Bah oui, parce que c'est, voilà, ça occupe. Donc, et voilà ce qu'ils disent des Alix ou des Alice, hein. Donc, ils sont très sympas, pas toujours très sociables et foncièrement jalouses. Les Alix ont un comportement qui dérange. Leur envie de vouloir à tout prix être les premières les entraîne dans la course solitaire qui finissent par les épuiser avec le temps. Et là, ils finissent par un truc super sympa. Heureusement pour elles, elles savent garder la forme. C'est sympa.
Atmen, vous me disiez, c'est juste, c'est tout ce que dit Christophe Mellé.
C'est tout ce que j'aime.
Il est frappé au saut du bon sens.
Hein. Oui, il s'est levé pour ça, c'est plein de fleurs, plein de
c'est
poésie.
Plein de fleurs, c'est plein de poésie. Et puis à chaque prénom, vous avez un petit dicton. Vous êtes vraiment notre petit soleil.
Oh.
Tout de suite, nous partons dans la rue avec Jacques Souvent. Jacques Souvent qui va voir, on va voir s'il croise des Alice ou des Alix.
Mais j'avais 12 ans, je parlais.
Qu'est-ce qui se passe?
Allô?
Oui Jacques, qu'est-ce qui s'est passé?
Bah comme elle a dit, non mais moi j'étais à la station service boulevard de la Villette, et puis je me suis dit j'accompagne la première personne que je croise, et j'ai croisé Nicolas.
Bonjour.
Nicolas qui travaille à la Poste.
Oui, Nicolas.
Salut Edouard, ça va?
Salut Nicolas.
Alors on était en tournée en fait.
En tournée, c'est ça exactement, et j'ai croisé Jacques, et voilà, qui m'a demandé de me prêter au jeu, et voilà quoi.
Merci Nicolas. Nicolas, bah de oui. Plus en plus, les postiers sont pas en uniforme du tout. Toi, tu es habillé comment?
Ah là, Jacques, tu peux te le dire, je suis en uniforme.
Ah, c'est sympa, ça fait plaisir.
Si, bien sûr, c'est un peu obligatoire, même par rapport aux clients, donc avoir la tenue.
Mais tu l'accessoiries, c'est un petit côté poste, et puis un petit côté plus perso, une paire de baskets, une veste de la Poste, une casquette.
T'as une caméra sur moi,
J'ai senti, Nicolas, que t'avais envie ce matin d'être en freestyle postier.
Exactement, c'est un peu ça. Bon, un peu cool. Je suis pas dans la droiture même, quoi. Mais bon, voilà, il faut être un petit peu décontracté aussi.
Donc, Jack, quelles sont les parties de Nicolas qui sont vraiment postales et d'autres qui sont plus perso?
Bah, dis donc, ça, c'est des questions. Alors, les baskets sont pas du tout la Poste.
Elles sont pas homologuées, hein, ouais.
Je crois qu'elles sont de Jordan. Le pantalon, je suis pas sûr parce qu'on est un peu dans l'obscurité.
On n'est pas sûr.
Et,
ouais.
Et puis, il y a deux stylos qui sont nonchalants dans la Poste.
Le stylo, c'est de rigueur pour un postier, c'est obligé. Alors, peu importe la marque, mais il faut le stylo.
Nicolas, est-ce que la Poste fournit des stylos? Combien par mois? Et quel autre matériel, quelle papeterie tu as droit?
Oui, on nous fournit des stylos, ça c'est sûr. Après, c'est à la demande, dès qu'on en a besoin, on nous en donne, ça, c'est pas compté, quoi. Ils sont pas regardants. Là.
Mais comment ça se passe, Nico? Il y a un bureau de la papeterie, tu vas sonner, tu dis, il manque un cas de couleur. Dis, Nicolas, vous êtes déjà venu 3 fois, je peux pas vous...
Non, du tout, ça se passe pas comme ça. Non, on y va... Voilà, on a besoin de 2-3 stylos, on nous les donne sans problème, quoi, avec nos chefs d'équipe. Voilà, il n'y a pas de souci, quoi.
On va faire une mise en condition avec Atmen Khalif. Atmen, vous êtes chargé du bureau, l'économe. Et Nicolas va venir, c'est la deuxième fois qu'il vient aujourd'hui vous prendre 3 stylos rouges, on va voir comment ça se passe. Nico, vas-y.
Oui, qu'est-ce que c'est?
Eh ben, j'ai besoin de stylos, je peux venir en prendre?
Oh non, c'est la troisième fois que tu viens dans le mois, là. Je peux pas, je peux plus. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus de stylos, voilà. Va bosser avec ton doigt.
À l'ancienne.
Nico, il y a quoi?
Bonjour, Jean-François, syndicat, on a besoin de stylos, vous pouvez pas lui dire ça.
Il y a des rendez-vous, il y a du...
Très bien joué.
Il y a du recommandé aujourd'hui, il y a quoi, Nico? On est parti sur quoi ce matin?
Ah, ce matin, on est parti, pour pas citer la société, de la grosse société, hein. Moi, je suis dans le 9e, donc il y a beaucoup de sociétés dans le 9e.
9e à Paris, il y a des assurances, il y a des banques, oui.
Ouais, les Médéric, AXA et compagnie, donc voilà.
Médéric? Médéric,
l'inspecteur Médéric? Ah non,
Médéric, Médéric Mutuel.
Je ne connaissais pas.
Exactement.
Nicolas,
voilà.
Nicolas, ouvre une lettre, là. Personne ne saura que c'est toi.
Oui, personne ne saura que c'est nous.
Oui, vas-y, ouvre. Ouvre un courrier.
Je vois un courrier pour vous, là.
Oui, merci.
Je vois un courrier pour vous.
Vas-y.
En général, les courriers recommandés, c'est jamais bon. Hein.
Est-ce qu'il y a du cash parfois?
Ouais, mais je prends tout.
Oui, bah bien sûr. Nicolas, ouvre une lettre et si jamais c'est un truc un peu chaud, Jacques nous rappelle, d'accord?
Il n'y a pas de problème, Edouard.
Bonne journée.
Merci, bonne journée. À bientôt.
À tout à l'heure. Rappelez-vous le gag tout à l'heure.
9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Oui, c'est vrai que parfois, on n'évite pas une certaine vulgarité qui est agréable. À 7h42, il est temps d'affronter les grands problèmes de notre société. Le monde du spectacle va-t-il être révolutionné? Va-t-il être bouleversé? Les salles de cinéma telles que nous les connaissions sont-elles appelées à disparaître? Cher Thomas Baumgartner, nous sommes avec Elisha Karmitz et Vincent Ravalet, vous allez nous les représenter, qui vont nous parler de cette nouvelle salle de cinéma, je ne sais pas si c'est du cinéma, mais enfin de réalité virtuelle qui vient d'ouvrir en France.
Il vient d'ouvrir en France, effectivement, Edouard, qui vient d'ouvrir dans le 13e arrondissement, MK2VR, à côté du MK2
bibliothèque. On voulait parler de la réalité virtuelle ce matin parce que c'est peut-être un des événements de l'année 2017. Les dispositifs, les matériaux, les technologies deviennent des technologies grand public. Et la réalité virtuelle, il faut peut-être dire ce que c'est. C'est-à-dire qu'on met un casque sur les yeux et puis on est plongé dans un film, dans un lieu virtuel où quelque chose se passe, qui est de l'ordre de la fiction, qui est de l'ordre du documentaire, qui est peut-être de l'ordre d'autre chose. Alors, Elisha Karmitz, vous avez... ça date d'il y a quelques jours. En fait, c'était un petit peu avant les fêtes. Cette salle a été ouverte. C'est ce lieu-là pour qu'on puisse apprendre ce que c'est que la réalité virtuelle.
Apprendre et découvrir, surtout faire des expériences en réalité virtuelle, c'est une nouvelle forme de création. Ça a besoin d'un lieu de diffusion. Et c'est l'un des premiers à Paris. Et puis, on a essayé de le faire sympa et social. Donc, c'est un lieu où on peut voir de la VR, mais il y a aussi un bar. On peut picoler, aller dans d'autres mondes en réalité virtuelle. Donc, c'est...
Alors, le bar n'est pas en réalité virtuelle, il est en concret.
Le bar est très concret, et exactement.
Oui, même Philippe fait des signes, il est rassuré.
Et puis, on s'est dit que c'était bien aussi d'avoir un auteur pour parler des réalités virtuelles. Parce que vous, Vincent Ravalec, vous êtes romancier, vous êtes scénariste, vous êtes cinéaste. Et puis, ça fait quelques temps maintenant que vous vous êtes saisi. Vous aimez bien les nouvelles formes d'expression avec l'image. Hein. Vous avez fait du web documentaire, de la web fiction. Et là, vous vous êtes saisi de ça. Vous êtes sur un projet qui s'appelle Fan en ce moment.
Fan Club.
Et ça vous intéresse de quoi? De découvrir une nouvelle frontière, comme on dit?
Écoutez, il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, j'aime bien les expériences un peu nouvelles. Ça, c'est évident que là, on est un truc qui est passionnant. C'est tout est à réinventer. Enfin, tous les gens qui travaillent sur la réalité virtuelle, on a l'impression d'être à peu près au même moment que l'arrivée du train en gare de la Ciotat. C'est-à-dire qu'on se pose des questions de la narration, du cadre, du jeu des acteurs. Enfin, c'est vraiment passionnant. Et puis, c'est vrai que moi, au départ, j'écris. Et là, on a l'impression, ce que j'aime bien, c'est raconter l'histoire. On a l'impression qu'on a une sorte de baguette magique qui vous est donnée. Vous avez tout un tas de possibilités. En fait, on n'a qu'à claquer des doigts pour faire intervenir un truc en vrai, une voix off qui vient de derrière, du son spatialisé. Les acteurs jouent pas pareil. Enfin, pour moi, c'est vraiment une nouvelle forme d'expression qui est passionnante et qui va prendre plein de formes différentes. En fait, on peut faire des histoires qui sont interactives. On peut être dans une narration classique. On peut être dans des choses qui sont d'ordre de l'expérience. Comme des installations d'art contemporain, par exemple. Enfin, il y a tellement de possibilités qui s'ouvrent que pour aujourd'hui, quelqu'un qui veut raconter l'histoire et qui veut faire de la création, c'est génial.
Mais vous dites que les acteurs ne jouent pas pareil. Dans Fan Club, vous annoncez Clotilde Courau, Mathieu Kassovitz, Denis Lavant. Mais le spectateur ne joue pas pareil d'une certaine manière aussi.
Rien n'est exactement pareil. En fait, c'est un peu trompeur parce qu'on se dit effectivement c'est une sorte d'extension du cinéma comme a pu être la 3D. En fait, moi, je ne pense pas du tout. C'est vraiment quelque chose qu'il faut penser différemment. C'est tout simplement pas la même chose, en fait. Pour moi, par exemple, j'ai deux expériences, celle de l'écriture littéraire et de l'écriture cinéma. En écriture littéraire, disons, je pense en mots, dans un espèce de choses qui ressemblent un peu à des lignes, des phrases, on va dire. En cinéma, je pense en images. Et en fait, en réalité virtuelle, vous devez penser en sphère, ce qui est pas du tout la même chose, en fait. Et vous concevez pas votre espace de la même manière, le rapport au temps n'est pas le même. Et évidemment, j'aimerais bien d'ailleurs qu'Edouard, qui est là... joue un jour en réalité virtuelle, parce que on est dans quelque chose qui va être à la limite, je pense, du spectacle vivant, du cinéma, et je pense que c'est encore, en fait, encore autre chose. Donc là, je teste des choses avec les comédiens.
Pour comprendre le truc, là, en fait, on se promène dans le film, en fait, on met le casque, et ce sont des films qui sont conçus pour ça.
Non, pas exactement. En fait, ça peut être ça.
Non, dis donc, pas trop de noms quand même.
C'est là où je veux dire, il faut pas oublier qu'on est en plus, c'est comment dire, un espèce de charnière technologique qui va très très vite. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous commencez à écrire votre film et le moment où vous le tournez, déjà la technologie a changé. Donc il y a ça, ce que tu décris, Edouard, ça va être possible, mais c'est pas systématique. C'est-à-dire qu'on peut être dans un film en réalité virtuelle juste où vous mettez le casque et vous avez juste devant vous, vous êtes immergé dans un monde qui est en 3D et en 360 dans lequel le film est autour de vous. Et puis, il va y avoir des films qui vont être des films interactifs où vous allez pouvoir interagir avec le film. Et puis, il va y avoir des films, d'après ce que j'ai compris, mais ça, moi, je n'ai pas encore expérimenté, où vous allez vraiment pouvoir vous promener dans le film comme dans des jeux vidéo élaborés. Mais c'est justement pour ça qu'il va y avoir une palette, je pense, assez large de formes d'expression qui vont surgir.
Alors justement, ces palettes d'expressions larges existent déjà en plus qu'en germe, puisque MK2 VR dans le 13e arrondissement à Paris, Elisha Karmitz, cet endroit dédié à la réalité virtuelle, il va y avoir, il y a déjà plusieurs manières de vivre ça. On peut voler, on peut faire, on se met en situation en fait de réalité.
On peut voler, on peut ramer, on peut grimper, on peut voir des films. En fait, on diffuse, il y a 12 postes de réalité virtuelle. Ça crée comme un parcours, on est autour d'un nonagone, donc il y a un espace en rond qui permet de, de vivre l'ensemble de ses expériences. Et on voit à la fois des documentaires, des courts-métrages, des films de fiction. On a des expériences dans lesquelles on s'immerge. On a un simulateur de vol sur lequel on s'allonge, qui est une expérience assez, assez forte émotionnellement. Et il y a des jeux vidéo. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle, ici, on est dans un lieu où derrière vous, ici, il y a marqué le grand mix.
Oui.
Et je pense que la réalité virtuelle, c'est ça. C'est que c'est l'avènement d'une grande mixité. C'est une mixité de la réalité. On va avoir la réalité, en effet, qu'on appelle réelle aujourd'hui, et la réalité virtuelle. Ces choses-là vont se mélanger. L'avenir, on va avoir de la mixed reality, ce qui va arriver aussi. Et on a une mixité des genres. Les genres de contenu se mélangent. Et puis, on espère que c'est le début d'un monde où les gens vont se mélanger, les sexes vont se mélanger, les populations vont se mélanger.
Qu'est-ce qui se passe ? Allons, s'il vous plaît, ne faites pas des grands appels libertaires dans cette émission centriste, puisque beaucoup de gens qui sont ici ont conçu le Futuroscope déjà à Poitiers. J'ai ici M. Manori. Eugénie, vous y êtes allée à la salle hier. Qu'est-ce que vous avez fait ?
Oui, oui, absolument. J'ai testé quasiment tout.
Alors, on est sorti dans quel état ?
Flippé à mort. J'avais pas du tout compris où est-ce que j'allais. Je pensais que j'allais regarder un petit film tranquille et que j'allais me balader ou me retrouver au centre. J'avais pas du tout pris en compte l'aspect ludique, notamment de l'escalade et du vol.
Vous parlez très bien.
Bon, faut pas avoir le vertige, très clairement. Puis il faut pas s'être couché à 5h du matin le soir d'avant, ce qui était mon cas. Donc, Elisha, j'ai eu l'impression de rentrer dans une salle de torture. Déjà, ça ressemble à une salle de sport.
Mais on choisit ce où on est. Là, pour le moment, c'est une expérience dans laquelle on est plongé.
Non, en fait, quand on arrive, il y a 12 postes de réalité virtuelle avec des casques. Et en fait, on achète du temps. Donc, on peut passer soit 20 minutes, soit 40 minutes dans la salle. À 40 minutes, on peut faire tout ce qui est proposé. Et on est libre de ses mouvements. C'est un endroit où il n'y a pas de mur, où il n'y a pas de câble, où il y a juste les casques qui pendent. Et où, en effet, ça va d'expériences qui sont émotionnellement fortes et où on a le vertige. À d'autres qui sont quand même plus en observation. Donc voilà, c'est...
Mais alors, on n'est plus ensemble, Elisha Karmis, dans une salle de cinéma. Mais... On est isolé, ça me fait...
Eh bien, justement, non. Et c'est l'idée, pour les gens qui nous connaissent et les gens qui connaissent MK2, l'idée de créer des... On est quand même là pour créer des expériences collectives. Donc d'abord, on est dans un cube de verre, donc les gens nous voient. Il n'y a pas de mur, on se voit les uns les autres. Si on fait un bar, c'est pour qu'on puisse en parler avant et après, pour que les gens se rendent compte. Oui. Et comme c'est quand même fort émotionnellement, les gens, ils ont besoin de le partager. Ils ont besoin de se regarder, ils ont besoin de le partager. Et je ne pense pas que ce soit les technologies qui fassent que les expériences soient collectives ou individuelles. C'est la manière dont on les met en scène. Donc on essaie de les mettre en scène pour que les gens soient ensemble et pas du tout pour les isoler.
C'est très juste, Elisha Karmis, je suis d'accord avec vous. Vincent Ravalec, ça va? Sinon, vous avez préparé un roman, vous n'écrivez plus de romans à cause de ça.
Mais si, j'en ai écrit un l'année dernière, Edouard.
Non, mais là, en ce moment...
Ah, en ce moment, si j'en ai deux, là, j'en ai deux dans l'étude.
Vous écrivez, vous êtes un écrivain du jour ou de la nuit?
Non, du jour, moi. La nuit, j'aime bien dormir.
Très bien, vous avez une hygiène de vie, vous êtes superbe. Eh bien, on a fini. On était très bien.
Sauf qu'on était
merci,
bien. On
merci,
était
propre,
on est droit dans nos bottes. Merci, messieurs. Allez voir ça, c'est où exactement?
Et donc, c'est dans le 13e arrondissement, MK2, à côté du MK2, dans le MK2 bibliothèque.
C'est à la pointe du MK2 bibliothèque.
Voilà. On est à la pointe ici.
Et donc, Fan Club à suivre.
Ouais, Fan Club, si c'est là, on le tourne cette année, ça va être top.
Si vous voulez jouer dans Fan Club, c'est trop tard. Ah, salut.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Et c'est la première dent que tu perds ou pas?
Non, j'ai déjà perdu celle-là.
Et ça te gêne pour parler que ça soit une dent de devant que tu as perdue ou pas?
Non.
Et tu penses qu'elle va repousser?
Bah oui, elle a déjà commencé.
Montre. Ah oui, mais tu... Bon, parce que c'est plus pratique pour parler quand même, non, d'avoir toutes ces dents, oui. Bon, à tout de suite, Liam.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Non, c'est pas facile ce que tu as pris. C'est des fables de La Fontaine que vous apprenez à l'école?
Je l'ai pas apprise à l'école.
Tu l'as prise où?
Au théâtre.
Ah, tu fais du théâtre en plus. Et à l'école, vous apprenez pas des poésies?
Bah, en ce moment, on en apprend pas beaucoup.
C'est une maîtresse ou un maître que tu as?
Une maîtresse.
Mais pourquoi elle vous fait pas apprendre de poésie?
Bah, pour l'instant, on les a juste recopiés.
Elle m'énerve, oui. Vous avez recopié?
Oui, et...
Ben oui, mais enfin, il faut les apprendre et puis faire un dessin à côté.
Ben, on les a recopiés, ouais. Et je fais le dessin.
Bon, ben t'as fait le dessin, déjà recopié, tu les apprends pas.
Ben, on va les apprendre après.
Mais quand Liam, on est déjà à la fin du premier trimestre, le deuxième trimestre vient de commencer, tu sais qu'il n'y a pas de troisième trimestre, parce qu'avec les ponts qu'il y a au mois de mai, les vacances de Pâques, en juin, l'école ferme tôt à cause de ceux qui passent le bac, tu le sais quand même. Oh, je suis énervé.
Comment elle s'appelle, cette femme de La Fontaine?
Les deux mulets.
On se lance ou pas?
Okay.
Ok. Ok, mon vieux. Quand tu veux.
Les deux mulets. Deux mulets cheminaient. L'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une chair si belle, lui voulut pour beaucoup en être soulagé. Il marchait à pas relevé, d'un pas relevé, et faisait sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait l'argent, sur le mulet du fisc, une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Comme
le mulet
en se défendant, se sent percé de coups. Il gémit, il soupire. Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis? Ce mulet qui me suit du danger se retire et moi j'y tombe et je péris. Je l'ai déjà dit. Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un autre emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade.
Eh oui, tu l'aimes bien ce
Jean
poème
de La Fontaine.
C'est Jean de La Fontaine. Oui. Tu l'aimes bien ce poème?
Ouais.
Ouais, bon, pas non plus. Hein? Pas plus que ça, quoi. C'est quoi la pire bêtise que t'es faite là pendant les vacances?
Je me souviens plus.
Non, et sinon, cette année, t'as fait des énormes bêtises ou pas? Hein?
Je me souviens plus non plus.
Et des trucs bien?
Je me souviens plus.
Ça t'arrange bien de pas te souvenir, hein? J'aime bien ce silence, parce que t'as l'air de préparer... T'as une tête de quelqu'un qui prépare des petits coups fourrés. T'as l'air un peu louche, Liam. Non?
Il est très mignon, surtout. Il est très mignon.
Bon, je te laisse aller à l'école, bravo. Mais je te retrouverai, Liam.
Il a très bien dit du...
J'amène tes parents tout de suite.
Il a dit La Fontaine, c'est très dur, de La Fontaine.
C'est dur de dire du La Fontaine?
Ah oui, quand même. Hein. Oui. Même Lucchini ne le dit pas aussi
mais
bien.
Mais tu l'aimais pas, ce poème, Liam, tu m'as dit. T'aurais voulu dire quoi, plutôt?
Je sais pas, puisque j'ai tout perdu.
Tu l'as pas perdu?
Mon cahier de poèmes de l'année dernière, je l'ai perdu.
Oh, c'est pas grave, si. Tu regrettes un peu?
Bah non, mais c'est juste que je pouvais pas faire de poèmes.
Bah c'était super, c'est de m'encourager. Bah, c'est super de faire La Fontaine.
Ouais.
Je te laisse aller à l'école. Bonne journée, mon vieux. Salut. T'es super sympa, je trouve. J'ai envie d'aller déconner avec toi dans la rue. C'est dommage que vous ne le voyez pas. J'ai envie de partir avec Liam dans la rue, aller faire des conneries. On est avec un autre type qui a bien déconné dans son enfance. Regarde-le, c'est Thierry Paret. Il a une tête très, très louche et c'est normal parce que ne laisse rien traîner. Ne laisse pas traîner tes billes ou des trucs de... quand il y a Thierry Paret. Allez-y.
On va parler des Golden Globes pour commencer, évidemment, hein, qui récompense Isabelle Huppert. L'actrice française a reçu le prix de la meilleure actrice dramatique pour son rôle dans le film Elle de Paul Verhoeven. Elle a aussi reçu le prix du meilleur film étranger. La cérémonie de Beverly Hills a surtout souri. Elle a été très applaudie.
Très, très applaudie.
D'accord, Atman. La cérémonie de Beverly Hills a surtout souri à la comédie musicale La La Land, hein, nommée 7 fois. Le film a reçu 7 prix, 7 sacres, dont celui de la meilleure comédie, meilleur réalisateur aussi et meilleur scénario. Alors que de nombreux métiers leur restent interdits, les quelques 4 millions de diabétiques lancent aujourd'hui une pétition réclamant la fin des discriminations professionnelles dont ils font l'objet. La pétition réclame que les professions interdites soient réévaluées une fois par an par un groupe interministériel en tenant compte des évolutions technologiques et médicamenteuses. 150 personnalités marseillaises, dont les députés PS Patrick Manucci et Marie-Arlette Carlotti, ont signé une tribune dans le journal du dimanche pour réclamer l'instauration dans la ville d'une légalisation contrôlée du cannabis pour, je cite, mettre fin à la prohibition. L'an dernier, les règlements de compte liés au narco-banditisme dans les Bouches-du-Rhône ont fait 27 morts par balle. Le José Bové des faucheurs de chaises en procès aujourd'hui à Dax, dans les Landes. John Palais, c'est son nom, s'est fait un malin plaisir d'aller voler des chaises dans les agences de banque soupçonnées d'être impliquées dans l'évasion fiscale.
Non mais c'est pas si simple, Thierry.
Oui.
C'est pas. Non mais vous avez simplifié là.
On revient toujours au même problème.
Mais oui, c'est pas si simple.
Vous dites les choses comme
vous dites les choses comme ça. Et ça tombe comme ça, comme une sorte de pardon, mais de bouse de vache.
Ça se dit, c'est pas facile.
Pardon pour cette image. Il y a un moment.
Mais j'en vois pas d'autres.
Moi, je ne.
Je cherche, j'en vois pas.
Ah non, mais oui.
Depuis nauséabonde et depuis direct. Là, on est précis. Voilà.
Je ne sais pas continuer.
J'ai plus de mouille à
les bras, mon vieux.
J-11 avant la cérémonie d'investiture de Donald Trump à Washington et aucun responsable politique français n'assistera dans la tribune officielle à l'investiture. signature du 45e président américain. Seul l'ambassadeur français
si
à Washington.
Et qui va chanter? Qui va chanter?
Moi, j'ai encore moi personne, qui vais m'y coller.
Tu vas t'y coller?
Personne n'y va, mon vieux. J'ai été contacté. J'ai été contacté par des hauts responsables américains.
Et ben, j'apprendrai
l'anglais.
Ça tombe à l'instant sur les TEDx, mais je crois que la cérémonie est reportée de quelques semaines. La mort de Rafsanjani, l'ancien président iranien de 1980 à 88, avec 82 ans, il aurait succombé à un malaise cardiaque. 4 morts, c'est le bilan provisoire d'une attaque au camion hier à Jérusalem. Le chauffeur du véhicule a été tué, il a foncé sur un groupe de militaires. Outre les 4 militaires tués, une quinzaine d'autres ont aussi été blessés. Le franc CFA est une survivance des colonies françaises d'Afrique qui constitue une servitude monétaire à laquelle il est temps de mettre un terme. C'est sur ce thème que des milliers de personnes se sont mobilisées ce week-end à Abidjan, Bruxelles, Londres, Ouagadougou, Kinshasa, Dakar ou encore Paris. Selon Médecins Sans Frontières, certains policiers retirent leur couverture aux migrants qui vivent dehors. Un trambus électrique sur les quais des Hauts-de-Seine, sur les quais hauts de la Seine rive droite, une piste cyclable bidirectionnelle rue de Rivoli, des portions fermées à la circulation automobile après la fermeture controversée depuis juillet des quais rive droite. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a détaillé hier au journal du dimanche les aménagements des deux axes majeurs qui traversent la capitale d'est en ouest. Rendu célèbre par le documentaire américain Blackfish, on va terminer là-dessus, Tilly Coom, l'orque de SeaWorld, est décédée. Elle avait 36 ans, enfin il avait 36 ans parce que cet orque était un mâle. Il faut attendre l'autopsie de l'animal, membre du parc à thème depuis 25 ans, pour connaître précisément les causes de sa mort. Mais apparemment, il souffrait depuis le mois de mars dernier d'une infection des poumons. Et Tilly Coom signifie orque tueuse. Pourquoi? Bah parce que l'animal a été impliqué dans plusieurs accidents coûtant la vie à 3 personnes, et notamment en 2010 lorsqu'il avait tué sa dresseuse.
Merci Thierry Paret. Et puis un bébé panda est né au zoo de Pékin. Il est tout mignon. Il fait ougnougnou, ougnini, ougnougnou. On va le bouffer. Tout de suite, Jacques Souvent.
Oui.
Jack, oui. Où en êtes-vous? Vous étiez à la Villette tout à l'heure.
Je suis à Barbès.
Barbès, alors est-ce que Barbès, c'est ce qu'on dit? Est-ce qu'il y a les couleurs, les odeurs, les saveurs
Le marteau piqueur et l'odeur. Je suis avec Saïf, on s'est rencontrés par hasard et il était en train de raconter à un autre ami que je ne connais pas qu'il fallait changer les habitudes de chacun.
Exactement. Les communs ne vont pas avec tout le monde, ni avec certains. Donc forcément, il faut changer, évoluer.
Par exemple, le chauffeur de bus qui devient boucher, ou le barman qui devient acteur de cinéma.
C'est un classique. Ça, c'est normal.
Oui, ça, c'est normal.
Faut pas éventuellement exagérer dans la chose. C'est des choses qui arrivent de partout et pour tout le monde. On va dire en gros, notre société, elle est pas aussi saine qu'on le pense. On vit avec, on essaie de faire du mieux qu'on va avec. Et j'ai pas envie de dire de bêtises. Quoi.
Oh si, moi j'en dis beaucoup. Il n'y a pas que moi qui ai le droit d'en dire.
La Starcy, là, de mon matin. Savourez votre café, mesdames, messieurs.
Merci, Saïd.
Je ne vais pas dans les comptes de la crise.
Et là, Saïd, vous allez faire quoi, là, tout de suite, là?
Moi? Aller travailler dans les sports. Sinon, aller dormir. C'est la meilleure des choses qu'on peut faire. Mais si on réussit pas dans un point, il vaut mieux aller dans l'autre. Pas se prendre la tête.
Merci Saïf.
C'est moi, je vous en prie.
Il a raison. Travailler ou dormir. Dormir à travailler. Travailler à dormir. Le sommeil est un creuset dans lequel on trouve les idées pour se renouveler, pour recommencer, pour changer. Changer tout. Ce monde ne tient pas le coup, changez tout, ouvrez grand les portes du désespoir, refermez-les sur les gens. Le vieux monde est derrière toi, cours, cours, file gamin. Ne te laisse pas rattraper par ses mains et ses ongles qui veulent se planter dans ton dos si doux. Fait pour les caresses, fait pour les baisers, fait pour les promesses, fait pour te recommencer, te réinventer. Il a raison, Saïf, changez tout. Le matin, le soir, l'espoir, la nuit tombe, l'étoile. L'étoile du berger désigne là du doigt l'enfant est né entre le bœuf et l'âne gris. Viens, 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 va passer un lundi de rêve, un lundi de soleil, un lundi à crier de joie, un lundi à s'embrasser. Allez, allez, viens, gamin.
7h-9h, plus près de toi.
C'est formidable, ça, qu'est-ce que c'est?
Le morceau s'appelle « Démission », les Villards.
Ah oui, Atmen aussi, vous avez aimé.
Ah, j'ai adoré. Le rythme est formidable, la voix, le ton.
Oui, bon, je dis. Tout à l'heure, on a un live aujourd'hui. Vous savez, les lundis et les jeudis, il y a des gens qui viennent chanter en direct ici au Grand Café Nova. Je sens que ça vous...
Ça me plaît, Nova Live.
Mais oui, parce qu'il y a plein de monde qui arrive. C'est bien. Là,
il y a des croissants, il faut leur dire.
C'est Charles X qui aujourd'hui... On va être au Fourni du Parc à Strasbourg.
Oui, allô ?
Bonjour, monsieur, le Fourni du Parc ?
Oui.
Oui, bonjour, monsieur. Je fais une petite enquête sur qui a eu la fève hier.
C'est mon chien.
C'est pas vrai ?
Voilà.
Mais il a choisi une reine ?
Tout à fait. Alors, si vous voulez qu'on s'amuse, on pourra s'amuser longtemps. Je suis très joueur.
Avec grand plaisir, cher monsieur.
Ça marche. Bonne
journée.
Je vous
remercie beaucoup. On a ri. On s'est amusé.
Oh, la prise de risque.
Alors, c'est une prise de maximum. On était donc dans le cas d'un canular téléphonique. L'idée, c'était
de grande haute voltige.
On est sur du très, très lourd. Ouais. C'est-à-dire, sans prévenir cette boulangerie à Strasbourg, je les ai appelés, et avec ce gars très drôle qui a eu la fève hier. Christophe, vous avez apprécié cette séquence?
Oh, bah, moi, j'ai adoré cette séquence. Et puis, on sent que la personne avait envie de rire en plus. Oui. Il avait envie de s'amuser avec toi. Ouais, et c'était vraiment bien fait.
Jack souvent est là. Jack, il y a de très très bons échos sur ce canular téléphonique. Oui, il y a une grosse demande. Jack, qui est la personne géniale que vous nous avez passée tout à l'heure?
Saïf.
Ah oui.
Saïf. Bah, rencontré par hasard au bar Le Barbès. Barbès, là je suis au métro, je suis en train de me rendre, je vais aller vers Jaurès.
Ah, il était étonnant ce mec-là, oui.
Et on s'est rencontrés, il voulait changer les habitudes de tout le monde.
Oui, mais vous avez été un petit peu décevant parce que vous avez juste parlé de métier. Ça m'a étonné, Jack, souvent, parce que d'habitude, les habitudes, vous voyez plus large, vous voyez plus grand. Là, vous avez juste pensé
café,
métier.
Café, cigarette, tout ça, quoi.
Il y a des clopes dans les cafés à Barbès le matin?
Non, pas trop. Là, je suis dans le métro, je suis un peu entouré de plusieurs dizaines de personnes qui me regardent bizarrement.
Oui, c'est peut-être lié au fait que vous aimez votre tenue de Père Noël.
Oui, bah je voulais la changer.
Oui, qui ne crée pas de la normalité ou de l'anodin. Vous ne créez pas de l'anodin, Jack.
Je peux faire une petite revue littéraire, si vous voulez.
Oui.
Oui, parce que je suis avec une dame qui est en train de lire un livre, je ne sais pas ce que c'est. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous êtes en train de lire ?
Lionel Duroy, Le Chagrin.
Ça raconte quoi ?
C'est l'histoire d'une famille.
Ça raconte quoi ?
C'est l'histoire de la déliquescence d'une famille, voilà, depuis le début du siècle.
Tout
et le chagrin pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Tout s'effondre.
Tout s'effondre, totalement.
Et
c'est très bien écrit.
Vous pouvez lire un petit extrait, là ?
Non, je peux pas.
Non, faut pas charrier.
Et vous travaillez pour qui ? Qu'est-ce que vous faites ?
Il est beau, ça serait un haut, ça serait moins bien.
C'est quoi votre truc ?
Très belle.
Alors, on se rend compte, j'ai décidé que j'accompagnais la première personne que je rencontrais ce matin.
Ah ouais, vous l'emmenez où?
Non, c'est vous, je vous accompagne, c'est vous qui m'emmenez.
Ah ouais, non, mais ça va pas être possible.
Pourquoi?
Parce que je vais aller prendre un café. Voilà.
Eh ben, ça peut se prendre à deux.
On peut prendre un café à deux, oui.
Non, mais j'écris. Là.
Vous écrivez?
Non, elle lit.
Ouais.
Comment?
Non, pas ça, mais...
On peut pas lire et écrire en même temps, quand même.
Non, mais après.
Rêver, peut-être.
Après, quand je prendrai mon café.
Vous descendez où?
Ah, vers la chaise.
Ah, ouais, on descendra tous au Père Lachaise un jour. C'est superbe ce qui se passe cette rencontre.
Vous travaillez pour qui? Pour Nova?
Bah oui.
Bah ouais, mais il n'est pas branché votre micro. Hein.
La mythomanie de Jack souvent vient d'apparaître.
Il est vraiment branché. Vous le voyez pas?
Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, c'est vrai, il est vraiment branché.
Vous y croyez pas?
Non, pas trop, mais c'était pas grave, vous êtes drôle.
Mais on va le prendre ce café.
Non, c'est pas possible.
Pourquoi il s'appelle comment?
Pas possible.
Il s'appelle comment?
Pas possible.
C'est le nom du mec de madame, de Jean-Pierre, pas possible.
Ça va pas être possible.
Eh bien, nous allons prendre un petit café au Père Lachaise.
Très bien. Tout à l'heure. Très bien.
Tout à l'heure.
On petit déjeune toujours avec des morts. Merci, Jack, souvent. J'ai mon film là qui sort après-demain. Je voudrais en parler sans que ça soit vulgaire, sans que ça fasse le mec qui fasse de la promo. Comment je peux faire, Atmen ?
On va faire de la musique tout à l'heure.
Parce que ça s'appelle Ouvert la nuit, ça sort après-demain. Je vais pas faire de la promo dans l'émission, mais enfin, j'aimerais bien quand même.
Il faut le dire 10 fois.
Il faut le dire 10 fois. 10 fois en tout, en espaçant.
Voilà.
Vous avez aimé le Strasbourgeois tout
j'ai
à l'heure ?
J'ai adoré. Faut pas croire, le Strasbourgeois est un peu chafouin, mais j'ai adoré la réponse qu'on lui a demandé. La fève, il a répondu mon chien.
Oui.
Pour ne mais pas répondre autre chose.
Moi, j'ai senti que derrière cet abord un petit peu brusque, il y avait un cœur qui battait.
Qui battait.
Bien sûr.
On a senti aussi tout un week-end à enfourner des galettes, il n'en pouvait plus. Et c'était la phrase de trop, à mon avis, la fête.
Marie, est-ce que vous allez bien ?
Ça va très bien, oui.
Est-ce que vous voulez votre jingle ?
Je l'aime.
Alors, on va vous l'envoyer avec Armel.
qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Bonjour.
Bonjour, chère Marie Misset. Vous êtes super spéciale. Vous l'êtes toujours, mais là, ce matin, parce que vous mélangez... C'est peut-être ce bonnet, c'est le côté moitié, moitié femme, moitié docker marseillais.
Un peu ouvert la nuit, je trouve.
Ah, vous avez, c'est mon titre de mon film, petite publicité. Ok, merci.
Vers la nuit, ça sort mercredi. Ce week-end, c'était la fin du Consumer Electronic Show, le CES de Las Vegas. C'est la grande messe des startups, de l'électronique grand public. Et alors, depuis quelques années, les politiques françaises s'incrustent, font tout pour qu'on les y voit au CES. Et on apprend ce matin, dans Le Parisien, deux choses. Un, NKM, François Fillon et Michel Sapin ont réussi à s'éviter pendant tout le salon, mais ils se sont retrouvés bloqués ensemble dans le salon VIP de l'aéroport de San Francisco, où ils ont continué à s'éviter. Deux, un homme en slip anti-onde a couru longuement après Michel Sapin. Dans Libération...
Ah, donc c'est ça, l'homme politique du troisième millénaire, il a un pied dans le salon de l'agriculture et l'autre au CES de Las Vegas.
Bien où vrai. On trouve des slips anti-onde. Ouais. Dans Libé, on découvre aussi que c'est grâce à François Fillon qu'on a Internet en France. Et oui, Libé se moque copieusement de lui, qui a dit en marge du salon « Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai ouvert les télécoms à la concurrence. Vous pensez qu'il y aurait Internet en France si on avait toujours France Télécom? Merci François. » Internet s'en est d'ailleurs donné à cœur joie derrière ça. Mais la star du CIS, ça n'a pas été les politiques français, loin de là, mais Alexa, hein, en tout cas c'est ce que disent Les Échos et l'usine digitale. Cette bonne vieille Alexa, c'est l'assistant personnel qu'Amazon a mis au point, capable quand on lui demande de commander un taxi, de prévoir des recettes, de fermer la porte, de régler la température de votre douche, tout ça. Au CIS, on précise chez Les Échos, on a vu toutes sortes d'objets qui se sont équipés avec Alexa, frigidaire, machine à laver, et d'après le cabinet d'études Gartner, en 2019, 20% de nos relations avec notre smartphone se fera via un assistant personnel type Alexa. On est donc même assisté pour parler avec son téléphone. Cette popularité d'Alexa inquiète Alain Damasio, formidable auteur de science-fiction français qui était cité par Science et Avenir dans un article sur Alexa en septembre. Déjà, il alerte contre ce que certains appellent la bulle et lui, le technococon. On va continuer d'acheter les produits qu'on a déjà achetés, regarder des films comme ceux qu'on a déjà regardés et commencer à avoir peur de l'autre, de ce qui est différent. C'est ce que dit Alain Damasio et il rajoute que le risque d'un assistant virtuel trop compréhensif, trop personnalisé, eh bien c'est qu'ils finissent par remplacer le besoin de contact humain. Pourquoi s'embêter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ne vous comprennent pas, quand Alexa comble tous vos désirs et anticipe vos attentes?
Enfin, c'est impossible, c'est un petit peu comme si dans une voiture, il y avait une voix qui vous guidait. Tout ça, c'est de la science-fiction.
Ah bah oui, c'est pourtant la page de commentaires des clients américains d'Amazon à propos d'Alexa, à laquelle Rue 89 avait consacré un article en 2015, qui donne raison à Alain Damasio. Les déclarations d'amour prolifèrent sur cette page. L'un estime qu'Alexa fait désormais partie de sa famille et l'autre dit « Alexa, mon amour, tu es une épouse presque parfaite ». Gérer une femme ou un conjoint qui vous contredit, qui n'accepte pas toujours vos décisions, bref, une personne réelle qui existe pour de vrai, c'est l'un des buts d'un surprenant, voire hallucinant week-end auquel un journaliste du jeune magazine en ligne Le 4 Heures, consacré au beau reportage, ce magazine, a assisté. C'était un week-end pour rendre aux hommes leur virilité. Idée toute droit issue de la tendance masculiniste importée des États-Unis. Le nom seul de l'événement est éloquent, c'est l'aventure initiatique du nouveau guerrier. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant ce week-end? Le journaliste incognito raconte qu'on danse nu autour d'un feu pendant qu'un membre du staff crie « Vous êtes 140 ce soir, 140 paires de couilles, même au Kazakh, vous verrez jamais ça ». C'est vrai que ça impressionne. Qu'est-ce qu'on fait d'autre pendant ce week-end? On complète des phrases telles que « Je suis un homme parce que », avec des réponses types comme « Je suis courageux, je pisse debout, je ne sais pas faire la cuisine ». On prend des douches d'eau glacée tôt le matin, on fait une thérapie publique où des membres du staff jouent vos parents. Il y a aussi un homme apparemment formé auprès de chamans amérindiens qui est là. On se remet nu, on s'enduit debout, on se choisit un animal totem, on asperge ses vêtements de sauge et des hommes tels que Michel, 48 ans, finissent par s'exclamer « Si je n'avais qu'une chose à dire, pardon, ce serait... » Joli. Et surtout, quand on le quitte le week-end, eh bien, il est recommandé de ne rien raconter. Car d'après le staff, d'abord, ça dissuaderait les gens d'y participer. Et puis, sorti de son contexte, ce n'est pas racontable. Vous pouvez toujours essayer. Ce sera bizarre. Je confirme, monsieur, c'est bizarre. L'article un peu plus nuancé que les morceaux que je vous ai choisis est donc à retrouver sur le 4 heures.
Merci beaucoup Marie Misset. Beaucoup de monde commence à arriver pour le live de tout à l'heure de Charles X. Monsieur, quel est votre prénom?
Florent.
Florent, comment vous êtes venu là?
En bus et à pied.
En bus et à pied, vous êtes inscrit. C'est donc un événement Nova, hein?
Oui, oui, oui.
C'est... Et alors, tu es fan de Charlie?
Oui, oui, grand. Oui.
Depuis combien de temps?
Depuis à peu près un an.
Tu les as vus sur scène?
Non, pas encore.
Eh bien, c'est grâce à nous. C'est ici, tout est possible. Je sais pas, je fais des mouvements sur rien. Mais qu'il s'agit tout seul dans son studio le matin. Marie, vous êtes formidable.
Merci.
Atmen, vous êtes brillant. Tito, où est votre guitare, mon vieux?
Perdu la guitare.
Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait?
Moi, je suis quoi?
Armel, vous êtes brillant. Vous êtes charmant. Vous êtes souple et alternatif. Eugénie, vous appelez qui là? Jack souvent?
J'appelle Jack.
Non, mettons. Un tout petit peu de musique.
Rappelons une boulangerie.
Une radio, vous savez bien.
Je propose de la pub.
Ah, je suis un fou de ça. Oui.
Faisons de la radio invisible, boulangerie.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
Attendez, il y a un service, il y a quand même, c'est une émission extrêmement bourgeoise, c'est une émission conservatrice à 8h30, il y a les infos.
Radio Nova.
Moi, j'aimerais pas être à la place de Nathalie Portman. Elle était nominée aux Golden Globes dans la catégorie meilleure actrice dramatique.
Alors,
elle était même
proposée d'être à sa place. Non,
oui, c'est vrai.
Soyons précis.
C'est vrai, faut être honnête.
C'est pas comme si, allô, voilà, il nous reste Nathalie Portman, c'est libre.
Elle
en ce
était
moment,
là pour un biopic quand même intéressant sur Jackie.
Ouais. On a réussi à interrompre Thierry alors qu'il n'avait même pas commencé. On est dans un niveau de
grossièreté. Là, c'est très fort. Elle était favorite, mais finalement, elle a été doublée par Isabelle.
Jackie qui était un biopic sur Jackie Sardou.
Arrête, c'est moi qui suis antipathique ici, pas toi. C'est moi qui.
Elle a été doublée par Isabelle Huppert pour son rôle dans le film Elle de Paul Verhoeven. Elle a aussi reçu le prix du meilleur film étranger. La cérémonie de Beverly Hills a surtout souri à la comédie musicale La La Land, nommée 7 fois. Le film a reçu 7 fois, 7 prix, dont celui de la meilleure comédie, meilleur réalisateur et meilleur scénario.
Elle, moitié loup, moitié tourterelle, c'est une femme, finiment. C'est une lady, elle. Hommage
vous
à
êtes le troubadour de l'Élysée.
Pardon, excusez-moi. Pardon,
selon l'Institut Sofres, Manuel Valls arriverait en tête au premier tour de la primaire du PS, mais serait battu au second face à Arnaud Montebourg et arriverait à égalité en cas de duel contre Benoît Hamon. Sondage à prendre évidemment comme tous les sondages avec prudence. Tant d'ailleurs pour celui-ci, il est délicat d'anticiper ce que sera
le scrutin. Alors, faut pas le dire, s'il faut le prendre avec prudence, ne le dites pas du tout.
Si, parce qu'en fait, dans ce sondage, ils analysent l'élection sous trois aspects, avec peu de gens qui votent, un peu de gens qui votent et beaucoup de gens qui votent. Donc, dans tous les cas de figure, il perd.
C'est moitié loup, moitié tourterelle.
Et pourtant, femme, cependant.
Tiens, ça, c'est
important.
C'est
une lady, elle. C'est une femme. C'est encore plus troubadour, là.
Didier Barbolivien. Je suis obsédé par Didier Barbolivien. Si vous le voyez dans la rue, amenez-le au studio.
Ça, c'est un truc important dont on parle très peu, même s'il passe un peu inaperçu. C'est un vote important depuis le 28 décembre et jusqu'au 13 janvier. Donc jusqu'à vendredi, les salariés des TPE, autrement dit des très petites entreprises, sont appelés aux urnes pour choisir le syndicat qui les représentera dans les négociations nationales ou paritaires à venir. Lors du dernier scrutin de ce type, la participation avait été très faible, puisque à peine supérieure à 10%. Le personnel du métro de Londres a entamé une grève de 24 heures hier soir. Selon les syndicats, la direction pourrait annoncer la suppression de 900 postes, ainsi que la suppression des bureaux de vente de billets dans les stations. C'est un peu comme chez nous, pour les remplacer par des distributeurs automatiques. 4 morts et une quinzaine de blessés. Ça, c'est le bilan d'une attaque au camion ce week-end à Jérusalem. Le chauffeur du véhicule a été tué, il a foncé sur un groupe de militaires. Le franc CFA est une survivance des colonies françaises d'Afrique qui constitue une servitude monétaire à laquelle il est temps de mettre un terme. C'est sur ce thème que des milliers de personnes se sont mobilisées ce week-end à Abidjan, à Bruxelles, à Londres, Ouagadougou, Kinshasa, Dakar ou encore Paris. Alors que de nombreux métiers leur restent interdits, les quelques 4 millions de diabétiques lancent aujourd'hui une pétition réclamant la fin des discriminations professionnelles dont ils font l'objet. Selon Médecins Sans Frontières, certains policiers retirent les couvertures aux migrants qui vivent dehors. Bruno Leroux, le ministre de l'Intérieur, donc nouveau, a défendu le travail des policiers à Paris. Il a déclaré ceci, il faut arrêter ce sport national de mise en cause des policiers. Nous, Marseillais, conscients du désastre que cause le trafic dans notre ville, appelons aujourd'hui à une légalisation contrôlée de la production, de la vente et de la consommation, telle qu'elle existe déjà dans plusieurs pays. Ce sont par ces mots que 150 personnalités marseillaises, dont le député PS Patrick Menucci, appellent à un changement radical de politique sur le cannabis. L'an dernier, les règlements de compte liés au narco-banditisme dans les Bouches-du-Rhône ont fait 27 morts par balle. Et puis la Coupe de France de football, un mot vite fait. Hier soir, Lyon a battu Montpellier 5-0. Lyon rencontrera Marseille en 16e. Marseille qui a battu Toulouse 2-1. Et puis, sortie mercredi en janvier aussi, important.
Non, arrêtez avec ça.
Je sors mercredi.
C'est Atmen qui vous met. Arrêtez Atmen.
Ouvert la nuit mercredi.
Alors, on 150 personnalités qui demandent la légalisation du cannabis. On est avec Philippe Pujol au téléphone. Philippe Pujol, qui est l'auteur de La Fabrique du Monstre, qui est un spécialiste des méandres, des secrets marseillais. Philippe, bonjour.
Bonjour.
Philippe, à votre avis, est-ce que c'est une sorte de barreau d'honneur, c'est un coup de gueule pour ouvrir un débat, ou il y a une possibilité que tout à coup une ville légalise un petit peu le cannabis? Qu'est-ce que c'est que cet appel?
Bah, une ville seule, non, sûrement pas. Ça se fait à l'échelle de la France, ça se fait pas, ça c'est sûr. Ça passe par Marseille, puisque Marseille symbolise beaucoup par ses règlements de compte, même s'ils sont un petit peu surmédiatisés, mais ils existent quand même. Ça symbolise beaucoup les méfaits des trafics de stupéfiants. Donc c'est l'appel se fait par Marseille. Il y a peut-être une arrière-pensée politique derrière, mais il y a quand même une réelle réflexion à mener sur la légalisation ou la dépénalisation du cannabis.
Vous qui connaissez très bien un petit peu les dégâts provoqués par ces collusions entre certains politiques, certains groupes mafieux, certains accords comme ça dont vous parlez dans La Fabrique du Monstre, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette légalisation?
Je pense que de toute façon, elle est inéluctable, c'est-à-dire que c'est un faux débat, c'est-à-dire qu'on va y aller, à la dépénalisation ou légalisation, je ne sais pas sous quelle forme, mais on va y aller, puisque de toute façon, ça arrive à peu près dans tous les pays du monde. Donc, d'un point de vue même économique, la France ne peut pas rester le seul pays qui ne produit pas, qui ne fait rien, et qui va laisser ses consommateurs partir dans tous les autres pays alentours et laisser filer tout ce pognon qui pourrait être utile. Et en plus de ça, pour des raisons de santé publique, il faudrait partir vers la légalisation du cannabis, parce que le cannabis est consommé quand il est en grande quantité par des toxicomanes, c'est-à-dire des gens qui fument énormément. Je ne parle pas du festif, je parle de ceux qui en consomment tous les jours, tout le temps. Et cela, pour avoir un traitement médical dessus, il faut être dans un cadre légal. Donc, pour des questions déjà de santé publique, la légalisation ou la dépénalisation serait déjà un premier pas important, quoi.
Et Philippe, vous avez l'impression que ça peut arranger beaucoup de choses liées aux petits ou aux moyens ou au grand banditisme, ou tout à coup les réseaux qui vendaient du cannabis vont passer à des drogues plus dures, ou est-ce que de toute façon c'est déjà fait?
Bon, ça non, mais il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être non plus dupe. Si demain on légalise, il y aura toujours du trafic de shit, puisque admettons qu'on ait un système à la hollandaise de coffee shop, on aura toujours une contrefaçon qui se fait dans les quartiers qui ont l'habitude de dealer. Alors on va amoindrir les trafics, mais on va pas les arrêter. On aura toujours un produit qui sera ou moins cher ou au contraire plus riche en THC, c'est-à-dire le principe actif du cannabis. Donc on n'arrêtera pas les trafics, ça c'est sûr. On les amoindrira et on pourra peut-être mettre des services de prévention, on pourra probablement faire de nombreuses choses pour qu'il y ait moins de consommateurs. Ensuite, le passage aux drogues dures, c'est un peu un fantasme, ça s'est jamais vérifié ailleurs. Pour consommer de la cocaïne aujourd'hui, il y a déjà tout le marché qu'il faut, il y a déjà les prix bas, il y a déjà de nombreux lieux où l'acheter, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de légaliser pour que d'un seul coup, il y ait plus de monde qui consomme. Ceux qui consomment ont déjà tout ce qu'il faut. Donc on ne passera pas à autre chose. L'héroïne, ce n'est pas une drogue qui est franchement à la mode, les drogues injectées ne sont pas les drogues qui fonctionnent dans nos pays, c'est plutôt les drogues du pauvre, pauvre, ça. C'est pas les drogues des pays comme la France.
Merci Philippe Pujol. Vous êtes où, là?
À Marseille, justement.
Vous êtes chez vous?
Oui, ça va, pas de calage, rien du tout, tout va bien.
Vous voyez quoi par la fenêtre, alors?
Par la fenêtre, je vois un lycée.
C'est pas... Moi, je déteste les bruits des écoles, je sais pas. Vous aimez bien entendre les récrés, tout ça?
Oui, mais j'en ai une à côté de chez moi, en plus d'école, oui. J'aime bien, ouais. Moi, j'aime bien, c'est vivant.
D'accord, et là, vous allez...
C'est un âge où ils ont le droit de gueuler tant qu'ils veulent dans la rue. Moi, j'aimerais bien pouvoir gueuler comme ça. Ils peuvent gueuler tant qu'ils veulent, on leur dit rien.
Salut, tout merci. Bien. Merci beaucoup. Bonne journée, Philippe.
Salut.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Mais il y a la météo, la météo de Tito.
Il fait 4 à Paris.
Voilà.
À 2 à Orléans,
voilà,
à Strasbourg au moins 2, à Tours il fait que 5, mais à Marseille, mon Dieu qu'il fait beau, l'arrivée du soleil à Nice et Ajaccio.
Voilà, ça c'est un service rendu à l'auditeur. Merci Tito. Il est 8h41, nous sommes dans les rues de Paris, mais vous n'êtes plus seul, Jacques.
Oui, à Paris, vous savez, il y a toujours ce petit bonhomme blanc sur les murs, à Paris et partout ailleurs, il y a toujours un petit bonhomme blanc sur les murs qui berce un peu toutes les flâneries, les déambulations.
Je ne comprends rien à cette phrase.
Et là, on fera l'analyse de texte plus tard. Et là, je suis devant une école avec Jérôme Ménager, qui est l'inventeur de ce petit bonhomme blanc.
Bonjour. Ah, ce petit graphe, ce dessin qu'on voit sur les murs, bien sûr. Bonjour Jérôme Ménager.
Voilà. Bonjour, ça va bien, Edouard?
Oui.
Bon.
Alors comment ça se passe? Vous sillonnez la nuit les rues de Paris, vous faites vos dessins, comment vous, vous officiez?
Bah là, c'est pas, on vient de mettre les enfants à l'école, donc on est devant le mur de l'école que j'ai peint sur 50 mètres de long. Donc oui, c'est pas la nuit. Non, j'aime pas travailler la nuit. Vous, on voit pas assez bien. C'est mieux la journée. Surtout quand il fait beau.
Alors, que vous travaillez en douce, il y a des commandes, il y a un mélange des deux?
Oui, il y a des commandes, il y a beaucoup de commandes quand même. Hein. Ça fait 30 ans, 34 ans maintenant que je peins sur les murs. Donc, pour mémoire, j'ai commencé en même temps que Radio Nova.
Alors, c'est les dessins les plus emblématiques, hein, c'est comme mystique, c'est vraiment, voilà, ce sont des personnages qu'on reconnaît sur les murs. Quand vous avez commencé, vous étiez, comment ça s'est passé?
Bah, justement, j'allais à pas mal à Actuel, hein. C'était notre journal phare à l'époque, quand on avait 20 ans. Donc on faisait même nos photocopies actuelles, pour tout dire. Donc j'ai même eu ma double page dans un des premiers numéros d'Actuel. Donc voilà, c'était des supports médiatiques qui nous aidaient à se faire connaître et puis à avoir l'audace d'aller plus loin, toujours plus loin, et puis peindre, et puis voilà.
C'est de la joie. C'est de la bombe. Avec quoi tu travailles?
Au pinceau, toujours. C'est léger, puis bon, c'est surtout le message qui compte. Hein. Pour moi, c'est la liberté, le bonheur.
Je crois que vous avez dit que la bombe, c'est pour les radiateurs.
Exactement, c'est vrai que c'est pratique. Enfin, ça coule, la bombe.
Alors, quand on voit tes dessins ou tes graphes, tu voudrais que les gens rêvent, que ça soit une évasion?
Ça amène une notion de liberté aussi. On se dit, tiens, le gars, il a fait ça, puis c'est un bonhomme tout nu qui court. C'est joyeux, c'est libre, hein, donc... Voilà, petit à petit, ça rentre dans l'esprit des gens, la liberté. C'est un long travail de dire soyons libres. Il nous faudra peut-être pas mal d'années encore, mais on y croit.
Tu marches dans les rues, t'es inspiré par un mur, tu dis tiens, là il manque quelque chose, là il manque de la liberté.
Oui, mais je t'ai même croisé, Edouard. Je t'ai croisé à Montmartre un jour.
Ah bon, mais peut-être qu'on m'avait fait boire, je sais pas, je m'en rappelle pas du tout. Jack, qu'est-ce que vous voyez là? Vous êtes devant un des dessins
Oui, alors il y a cette fameuse ronde, il y a une ronde qu'on voit dans les gars de Ménilmontant, dans la rue Ménilmontant, quand on monte, il y a cette grande ronde de bonhomme blanc, et puis allez, un beau camion de poubelle. et puis là, en fait, il y a une espèce d'interprétation de Saint-Georges qui combat le dragon, c'est ça?
Oui, c'est ça, bah, c'est l'école Saint-Georges, donc il est très grand ce mur là, c'est... Le combat du bien contre le mal. Tadam.
J'aime bien la fin, là, Renaud. Merci, merci Jérôme Ménager.
Ben, merci à vous, c'est super. Continuez la radio, c'est génial.
On te laisse enchanter nos murs, merci.
Oui, vous enchantez nos oreilles.
Oh là là, quelle ambiance ce matin. Oh là, l'ami tout doux, plaît-il. Subséquemment, nonobstant.
Bonne année.
Ouais, bonne santé. Oui, oh, ça va. Ah, ouais. Malheur, décédé avant la fin de l'année. Allez,
en fait,
merci,
j'ai vu Rollin hier, c'est génial.
Le professeur de Rollin, son spectacle se rebiffe à l'Européen, il faut aller le voir.
Ah, il est super, il faut le voir. Hein.
Merci Jérôme. Bonne traversée de Paris. Nous sommes toujours là en studio pour le dernier quart d'heure de l'émission. C'est quoi, c'est un morceau que vous avez envoyé, Armel?
Oui, il fallait pas.
Si, mais est-ce qu'on a le temps? Alors, si on envoie un peu de musique, ça nettoie un peu les oreilles. À tout de suite.
Bloquer l'accès. Non, il y a le directeur de Nova qui est là, Bernard Zécri, et Akmel, vous trouvez qu'il y a eu un abus de frangipane?
Il y a un abus de frangipane, il y a un week-end frangipane là.
Il y a une surcharge pondérale depuis hier.
Ah oui, grave.
Vous avez pris un peu de frangipane.
Il y a la
Bernard. Fois,
la fève bon. Et la frangipane.
Bon, ben, occupez-vous de Bernard Zécri, Ahmed Khalif.
Cher Thomas Baumgartner,
oui,
recentrons-nous.
Oui.
Il y a une question qui se pose à 8h47, voire 8h48, c'est où en est l'industrie cosmétique en France?
Mais c'est une question que se pose en tout cas lesjours.fr, qui interviennent régulièrement ici même. Et c'est une question que pose Erwan Seznec, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Ma question, c'est un article, c'est une obsession, comme on dit au jour, une série qui s'intitule « Autour du pot », hein, que vous signez. Et là, la question, c'est justement, c'est une belle question, c'est-à-dire comment ça se fait que ça marche, l'industrie cosmétique, et en particulier les fabricants, c'est-à-dire pas les marques, mais plutôt les sous-traitants, c'est ça?
Exactement. On a une filière en France qui se porte extrêmement bien, qui ne délocalise pas et qui crée même des emplois, par les temps qui courent, c'est aussi fréquent.
Mais alors, donc, c'est une question sur quelque chose de positif, c'est plutôt bien de faire une enquête positive.
Bah, tout n'est quand même pas positif.
Ah, quand même, je me disais quand même. Ouais, aussi.
Quand même.
C'est-à-dire
les traitants sont très très sérieux, les gens qui font le marketing un peu moins. Il y a des publicités qui ont été interdites aux États-Unis parce que les promesses faites étaient absolument extravagantes et continuent à avoir lieu en France. Il s'agit de publicités pour des marques françaises qui vous promettent un rajeunissement évidemment totalement hypothétique et impossible à obtenir avec des cosmétiques.
Alors ce qu'on lit aussi dans cet article, effectivement, c'est que la plupart des peaux, alors je ne sais plus qui dit ça, mais je crois que c'est un scientifique, contiennent essentiellement de l'huile et de l'eau, enfin c'est ça et...
Exactement, c'est la recette plurimillénaire des cosmétiques, du gras dilué dans de l'eau.
Voilà, ah, oui. Mais par contre, il y a quand même un travail avec les scientifiques, c'est nécessaire, plus qu'il y a quelques années.
Oui, absolument, il y a des choses très pointues qui se font, par exemple en laboratoire, ils reconstituent des peaux artificielles, mais qui sont vraiment vivantes, avec des vraies cellules, pour tester l'effet des crèmes sur la flore bactérienne que nous avons tous à la surface de notre peau. Ça, c'est des choses assez nouvelles, qui sont assez pointues, et là-dedans, les Français ne sont pas mauvais, il faut bien le dire.
Alors, dans l'article, moi, ce que j'ai trouvé aussi enthousiasmant, Erwan, c'est tout à coup le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de PME à travers la France qui ouvrent et qui fabriquent des cosmétiques en Auvergne, en Ardèche, en Haute-Loire. Donc, c'est très décentralisé, il y a beaucoup de PME et ça roule.
Oui, c'est même étonnant de voir que des usines de 500 personnes sont installées en Haute-Loire ou dans le Limousin. Et tourne assez bien en vendant à l'international. Comme quoi, c'est possible. Là-dessus, la filière cosmétique peut être citée en exemple.
Mais finalement, c'est pas mal de faire de l'huile, de l'eau et après d'inventer avec du marketing, avec de l'imaginaire, qu'on comprend autre chose. C'est la base même du commerce, non?
Bah, c'est quelque chose d'un peu magique. Mais il faut bien dire que quand vous achetez une voiture, la peinture métallisée, ça représente plusieurs milliers d'euros. Qu'est-ce que c'est d'autre que de la cosmétique? Elle roule pas plus vite, elle est pas plus confortable et elle est pas plus sûre. Il faut pas non plus dober sur les cosmétiques comme si c'était complètement irrationnel. Tous dans notre vie, on fait des choses complètement irrationnelles quand on est consommateur.
Alors, ce que vous dites aussi dans cet article, Erwan Seznek, c'est que si on possède une marque, on peut lancer facilement des cosmétiques à son nom en allant vers ces sous-traitants, vers cette industrie française discrète mais efficace.
Absolument. Si vous voulez lancer demain la crème beurre, vous aurez tout sous la main. Vous aurez quelqu'un pour vous la fabriquer. Vous aurez quelqu'un pour la conditionner, vous aurez quelqu'un pour vous faire les emballages en carton, vous aurez absolument tout. Et ils ne cherchent même pas à être connus. Ils vous laisseront toute la gloire du produit.
Oh, moi non plus, j'y tiens pas. Mais dites-moi, vous voyez ça comment, cette crème beurre, crème jour, beurre nuit
Bah, l'idéal, ce serait de faire quelque chose de détox, très à la mode, ouais. Bio, très très important. Ouais. Et puis décliner, effectivement, une crème de jour, une crème de nuit, ce serait pas mal. Et un masque. Très, très à la mode, les masques.
Merci beaucoup, Erwan Seznek. Donc, on se rappelle les mots du jour, un bio, détox, tout ça, ça rassure. Et puis donc, dans les jours, enfin, une enquête sur une branche de l'industrie française qui va pas mal.
Ben voilà.
Merci, bonne journée. Ah, c'est la musique, elle veut dire qu'on n'a plus le temps de mettre de la vraie musique et qu'on va partir, chez Armel. On va partir pour écouter le live. Thomas, venez avec moi.
Avec plaisir.
Est-ce qu'il y a l'autre micro qui permet de se balader?
Alors, j'attendais ce moment.
C'est ça. Parce qu'on va aller rejoindre Rudy dans le Café Nova. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont déplacés pour écouter le live aujourd'hui. Charles X, alors attendez.
On n'a pas ce micro sans fil
alors,
aujourd'hui.
Alors, on n'a pas le micro sans fil, donc je vais parler très fort. Je vais hurler, puis je vais parler du couloir. Donc là, je vais vers le live, parce qu'on n'a pas le micro sans fil.
J'envoie la pub, Edouard.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi. 7h, 9h, Edouard Baird.
Je passe une matinée, mon Dieu.
Charles X est là, en studio, est-ce qu'il y a du monde? Ah, c'est chaud. Merci, énormément de monde s'est déplacé ce matin. Lot of people for you. Are you happy for advertising? We have the best advertising. Il a adoré les pubs.
You have the best advertising.
You want to bring back some home? Est-ce qu'il veut rapporter de nos pubs?
Some of the advertising?
Yeah.
Sure. Do you have some I could have, I guess?
Oui, alors on va lui donner. Il a adoré la pub Ford et tout ça. Bienvenue, welcome. Je suis entièrement bilingue, carrière Hollywood. Cher Rudy, nous avons la grande chance d'avoir Charlie ce matin.
Si nous étions dans les années 70, Charles X ferait sans aucun doute partie de la Zulu Nation d'Africa Bambaataa et aurait adopté avec naturel le slogan hippiesque mais ô combien symbolique « Peace, Unity, Love and Having Fun ». Au lieu de cela, nous sommes en 2017 et le natif de Long Beach, Los Angeles, devenu aujourd'hui résident bordelais, s'apprête à sortir son troisième album en 3 ans en France intitulé « Peace ». Trop ovni, trop étrange pour le hip-hop américain actuel. Ne cherchons pas à étiqueter, catégoriser Charles X, car c'est impossible et surtout, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de ressentir la musique qu'il chante, celle qui vient du plus profond de son âme, de son cœur, l'essence même de la soul. Alors laissons-nous porter, perdons-nous sereinement dans le labyrinthe de groove dans lequel Charles veut nous emmener, suivons sa voix aussi chaude que brisée, et peut-être qu'à la fin, nous trouverons la sortie, celle souhaitée par Charles, danser tous ensemble, unis autour d'un feu, en fumant de la weed, avec un bon repas. Et honnêtement, je trouve cette perspective pour 2017 des plus réjouissantes. Charles X stays with c'est us in ça, France. Et alors, comme Charles ne fait rien comme les autres, il va nous interpréter comme premier titre une reprise de George Michael, Face.
Chut, je voulais pas le dire. C'est parti, accompagné à la guitare.
Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody's got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor, baby. Oh, baby, when love comes down without devotion, well, it takes a strong man, baby. But I think I'm showing you that door. I gotta have faith, baby. No, no. I got half of you, baby. I said, baby, I know you're asking me to stay. Say, please, please, please don't go away. You're giving me the blues, baby. You mean mean every word you say. Can't help but think of yesterday. And when another tried to turn me down to love but blues before this river becomes an ocean. Before you throw my heart back on the floor, baby. Oh, baby, I reconsider my foolish notion. Well, I need someone to hold me, but I think I'll wait for something more. I gotta have faith, baby, 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 baby. I gotta have faith. All right, Tony, take him home. Before this river becomes an ocean, before you throw my heart back on the floor, baby, oh, baby, I reconsider my foolish notion. I said I need someone to hold me, but I think I'll wait for something more, cause I gotta have faith. I said don't worry about your problems, baby, you just gotta have faith. All right.
Merci, génial, oh, génial, Charles X, Tony à la guitare. Retrouvez les 30 Glorieuses et un très très bon anniversaire à Thierry Paré. Bon anniversaire, moi. Thanks a lot.
Merci à toi, bro.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.